Bière de voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. L'école à la radio, l'enseignant du jour pour les enfants en âge d'école primaire et toujours privé de classe, c'est Gérard Sans Faute. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver.
Comment vous portez-vous ?
Ah mais très bien, je continue à faire du vélo.
Voilà, ah bah voilà, vous avez donc pédalé ce week-end alors ?
Ah ben, à travers Paris, je fais plein de kilomètres dans Paris depuis le déconfinement.
Il faut dire aux enfants qui nous écoutent que votre passion, après les abeilles hein, bien sûr, c'est le vélo. Et vous avez un palmarès de périples bien fourni, il me semble.
Ah ben, je suis allé parfois assez loin. Je suis par exemple allé tout en haut de l'Europe. Tout au Cap Nord, c'est tout en haut de la Norvège, c'est 1000 km après le cercle polaire. Alors j'ai relié Paris jusqu'au Cap Nord à vélo.
Ah oui, Paris, et le cercle polaire.
1000 km oui. Plus loin que le
après
cercle
le
polaire.
Après le cercle polaire, waouh.
Voilà, oui. À vélo. Et j'ai aussi traversé les États-Unis, de oui. l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Donc j'ai fait toute la traversée à vélo.
Vous avez un terrain favori ?
Je préfère quand c'est plat. les montagnes, c'est pas trop mon truc. Les descentes, mon terrain.
Oui, voilà. Ça je vous comprends assez. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, qui vous écoutent surtout Gérard, depuis le début de l'école à la radio, et qui vous appellent parfois le professeur parfait, eh bien on peut enfin vous voir en photo sur notre compte Instagram 7 milliards de voisins, et vous êtes à vélo, sous la pluie. Où est-ce que vous êtes ?
Alors là, j'étais arrivé à la pointe ouest de l'Europe, hein, c'est à la pointe du Raz, c'est tout au bout du continent. Et j'ai relié Paris à la pointe du Raz en vélo, et c'était au mois d'octobre dernier. C'est assez récent.
Voilà pourquoi aujourd'hui, les problèmes mathématiques vont se faire à vélo ou presque. Beaucoup de problèmes donc autour des routes vélo notamment. Alors vous me les avez envoyés avant l'émission, et je dois dire que pour la première fois, j'ai tout trouvé. Donc soit vous avez sacrément baissé le niveau, soit j'ai fait des progrès. Mais en tout cas, ce qui compte, ce sont les progrès des enfants, évidemment.
Oui, bah, y en a pour tous les niveaux. Il y en aura pour les CP et même ceux qui sont plus jeunes que le CP. Mais il y en aura des plus compliqués vers la fin aussi. Il y en aura pour tout le monde.
Pour se reposer, l'histoire du jour, écrite par Jean-Jacques Vdida, la langue, vous savez, c'est ce petit morceau de chair qui fait sortir des mots de notre bouche et vous allez voir qu'elle cause beaucoup de troubles à un certain guerrier. Et puis en fin d'émission, eh bien, on reparlera calcul mathématique d'une certaine manière parce qu'on va parler business avec la chronique du coach Didier Akwété sur les entreprises en Afrique, comment bien définir son marché et ses clients après la crise. Et j'en profite aussi pour passer un appel aux enfants. On prépare pour nos réseaux sociaux un album de vos dessins sur l'école à distance, l'école à la radio. Vous pouvez vous dessiner vous-même en train de suivre l'émission. Vous pouvez aussi envoyer des dessins inspirés des contes diffusés dans notre émission et qui ont beaucoup de succès. Surtout, vous postez vos dessins dès maintenant sur notre fil WhatsApp 33 1 84 22 71 71 et ça donnera lieu à un joli feuilleton en images, vous verrez. L'émission est réalisée avec l'équipe de 7 milliards de voisins, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même pour vous servir.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Bonjour 7 milliards de voisins. Manuel, juste quelques trois points de partager avec vous. Je suis Mamadou Diallo, Sénégalais bloqué en Gambie. Je vous prie de continuer l'école à la radio. Pourquoi ? Parce que ça va nous arranger dans l'hivernage, nous qui sommes vraiment dans des villages très enclavés, qui ont des classes en abri provisoire. Il ne sera jamais possible de continuer ou bien essayer de rattraper le temps perdu dans l'hivernage au niveau des écoles. Le deuxième point, c'est-à-dire que vos émissions, je les enregistre. Et je les envoie au village chez moi au Sénégal. Donc je les envoie à mon neveu qui est étudiant. Il n'est pas enseignant, mais il est étudiant. Il est revenu au village comme il n'y a plus de cours. Et il rassemble mes enfants à la maison pour leur faire le cours ensemble et leur expliquer, réviser le cours ensemble. Il m'a dit, mais en cours, je commence à avoir l'amour d'être un enseignant. Je ne l'imaginais pas, je ne voulais pas l'être, mais je commence à l'avoir. Parce que vraiment, c'est bon d'enseigner et puis c'est bon d'être devant des enfants. Et le troisième point est que mon neveu partage les mêmes émissions avec ses collègues, ses camarades, des étudiants qui sont dans le même village et dans la même localité aussi. Eux aussi, ils font la même chose au sein de leur maison. Finalement, il m'a proposé de créer un groupe WhatsApp pour que je puisse partager les émissions dans le groupe. Merci, l'école à la radio.
Merci à vous, Mamadou. Je commence à avoir l'amour d'être un enseignant, lui dit son neveu. C'est quelque chose que vous avez éprouvé, Gérard Sans Faute.
Ah, mais oui, hein, j'ai toujours aimé. Ça a été un plaisir pour moi de faire l'école jusqu'au dernier jour où j'ai travaillé. J'ai même quitté mon école.
C'est-à-dire 43 ans, 44 ans, non, je ne sais plus.
43 ans quand j'ai arrêté.
Dans voilà, votre salle de classe.
Parce que j'avais l'âge.
Et le dernier jour à vélo, donc.
J'ai quitté l'école à vélo. Voilà.
Un élève nigérian au Sénégal nous a posté un poème.
Bonjour, je m'appelle Gédéon Oluwaseyi Olanloye, dans la classe de CM2A à l'école Sainte-Croix de Bambé. Et je vais vous lire mon poème dans ma langue maternelle, Yoruba. Le poème s'appelle Omo Atata. Omo Atata, Kaka Kimbi et Baobu Makukubi Okonchocho Oka. Mon enfant précieux, au lieu de donner naissance à de nombreux enfants, je préfère donner naissance à qui je serai fier. Mais mieux vaut donner naissance à un enfant généreux, intelligent et responsable que d'avoir beaucoup d'enfants irresponsables. Mieux vaut mourir jeune en fleurs que vieillir pauvre.
Mieux vaut vivre jeune en fleurs que mourir pauvre. Voilà. Merci Gédéon, en tout cas, pour la traduction, parce que vous n'êtes pas nombreux à nous envoyer les traductions de vos poèmes et c'est bien dommage. Allez-vous continuer de poster vos réactions, vos témoignages aussi sur l'école à distance 33 1 84 22 71 71. Et n'oubliez pas l'appel à dessin aussi, inspiré par le conte, par les problèmes de mathématiques, par tout ce qui vous inspire pendant l'émission pour dessiner, pour que ça donne lieu à un joli feuilleton posté sur nos réseaux sociaux. Vous postez tout ça au 33 1 84 22 71 71.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Vélo et mathématiques, c'est donc le programme aujourd'hui avec vous, Gérard Sans Faute.
Aujourd'hui, il suffira d'avoir une feuille et un crayon pour écrire sur la feuille, ça sera suffisant. Et comme les plus petits sont concernés aussi, s'il y a un grand à côté pour l'aider à faire ces petits schémas, ça sera bien aussi.
Ouais. Donc, alors, défaut d'avoir un vélo, on va commencer par le dessiner, c'est ça?
Au début, on va dessiner simplement, comme il y aura des vélos et des tricycles, il faudra dessiner le plus simplement possible. Parce qu'on est en mathématiques. Hein. Quand j'avais des élèves qui faisaient un beau dessin de vélo, je disais, tu n'auras pas fini ton problème si tu me fais un beau vélo comme ça. Donc, il faudra dessiner le vélo très rapidement. Pour un vélo, on fait deux cercles et on attache les deux cercles rapidement et on sait que c'est un vélo. Dans les problèmes, il y aura des tricycles. Donc, des vélos à trois roues. On dessine trois roues et on attache les trois roues rapidement. C'est un tricycle. Mmh. Voilà.
Tricycle, hein, c'est vraiment le vélo pour les enfants qui ne savent pas encore rouler, garder leur équilibre sur un vélo avec deux roues.
C'est ça, il y a une roue devant et deux roues derrière. Donc dans mes problèmes, là, il y aura des vélos à deux roues et des tricycles à trois roues.
Ah, d'accord. Allez, c'est parti alors.
Alors, dans le premier problème, c'est dans ma caisse, il y a des objets roulants. Des vélos et des tricycles. Vous devez trouver combien de vélos et de tricycles il y a dans ma caisse. Alors, je compte les roues. Il y en a quatre. Donc, vous devez trouver, en faisant un dessin, un schéma, Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? On nous dit qu'il y a combien de roues? 4. Vous dessinez les 4 roues et vous cherchez combien on peut faire de vélos, de tricycles, avec ces 4 roues qui sont dans ma caisse.
Et bien sûr, vous vous aidez avec les 2 dessins initiaux, le dessin du vélo, le dessin du tricycle, hein, parce que ça aide bien à visualiser le nombre de roues pour le tricycle, pour le vélo. Donc là, dans la caisse, il y a 4 roues. Donc, combien de vélos et de tricycles on peut fabriquer avec ces 4 roues?
Alors, quand je donnais ça à des élèves, il y en a qui dessinaient 2 vélos. Et si on recomptait les roues sur les 2 vélos, 1, 2, 3, 4, on avait utilisé nos 4 roues.
Oui.
Donc, 4, c'est 2 et encore 2. On a bien nos 4 roues, 4 égale 2 plus 2, il y a 2 vélos. On a trouvé la réponse, avec les 4 roues, il y a 2 vélos.
Oui.
Mais on n'a pas mis de tricycle. Alors, quand je donnais ce problème, il y a des élèves, ils disaient, mais peut-être qu'il y a une autre solution avec un tricycle. Et ils dessinaient 3 roues, oui. Un tricycle, et ils se disaient, est-ce que ça fonctionne? Parce que dans ce cas-là, il reste une roue.
Oui, il reste une roue. Il existe hein, des sortes de vélos, je ne sais plus comment ça s'appelle, le vélo avec une seule roue qu'on voit dans les cirques. Mais là, ce n'est pas proposé, hein, Gérard. On est bien avec seulement du vélo et du tricycle.
Ah ben, dans l'énoncé, c'est bien clair. Il y a des objets roulants, des vélos et des tricycles. On ne parle pas de vélos d'artistes de cirque qui sont en équilibre
donc,
sur une seule
voilà.
roue.
Voilà. Donc, s'il ne reste qu'une seule roue, c'est que ce n'est pas possible qu'il y ait un tricycle.
Non. Donc, parce que là, on avait, pour avoir 4, on a fait 3 roues pour le tricycle et il reste une roue. 4 égale 3 plus 1, mais on ne peut pas avoir de roue toute seule. Donc, ce n'était pas une bonne solution.
Alors, on continue avec un deuxième problème, Gérard. Et toujours, ce que vous voulez, c'est entraîner les enfants avec les roues à faire des paquets de chiffres.
Hein. C'est ça, c'est à partir du nombre, de le décomposer avec des additions. Alors, le deuxième, il ressemble beaucoup. Vous allez voir, il n'y a que le dernier mot qui change. Alors, écoutez bien. Dans ma caisse, il y a des objets roulants, des vélos et des tricycles. Vous devez trouver combien de vélos, de tricycles il y a dans ma boîte. Je compte les roues, il y en a 5. Donc là, pour le faire, vous devez dessiner 5 roues et essayer d'obtenir des tricycles, des vélos avec les 5 roues.
Alors, combien de vélos, voilà, combien de vélos, combien de tricycles on peut faire, on peut monter avec 5 roues.
Alors, il faut faire par tâtonnement, essayer. Et par tâtonnement, si on dessine un vélo et un tricycle, on a pour le vélo 2 roues, pour le tricycle 3 roues, 2 plus 3 égale 5.
Ça fonctionne.
Allez, ça y est, ça fonctionne. Donc, dans ma caisse, j'ai un vélo et un tricycle.
Et si c'était deux vélos, est-ce que ça fonctionnerait si c'était deux vélos?
Ah ben, si on a deux vélos, ça ferait 2 roues pour le premier vélo, plus 2 roues pour le deuxième vélo, on est obligé de faire plus 1 pour arriver à 5.
Oui.
Et on est, comme tout à l'heure, on se retrouve avec une roue toute seule.
Voilà, la roue toute seule.
Avoir...
Alors, on vient de m'envoyer la réponse, ça s'appelle un monocycle. Mais ce n'est pas dans les problèmes de maths de Gérard Sans Faute, le monocycle. On ne peut rien en faire, une roue toute seule, chez nous.
Voilà. Bah non, ce n'est pas dans l'énoncé. C'est ça, il faut bien lire l'énoncé.
Ça n'est pas dans l'énoncé. On nous a bien demandé combien de vélos et de tricycles à partir des 5 roues. On enchaîne avec un troisième problème. On est toujours pour des problèmes pour donc décomposer en addition pour les plus jeunes. Hein. C'est bien ça, Gérard?
C'est ça, c'est ça. Alors, je lis l'énoncé. Il va ressembler à celui de tout à l'heure. Dans ma caisse, il y a des objets roulants, des vélos et des tricycles. Vous devez trouver combien de vélos et de tricycles il y a dans ma caisse. Je compte les roues, il y en a 13.
Ah.
Alors, il y en a un peu plus.
Ça se complique. 13 roues. Alors, donc, avec les 13 roues, combien de vélos et de tricycles on peut fabriquer ?
Alors, là, c'est pareil. Hein, vous devez faire par tâtonnement. Vous dessinez les 13 roues. Et souvent, les élèves, ils se mettaient à faire des vélos. Et j'en voyais qui faisaient 6 vélos avec 12 roues. Donc, 6 vélos, c'était 12 roues parce qu'ils faisaient 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 12.
Oui.
Mais ils faisaient plus 1 pour arriver à 13, mais ça n'allait pas.
Eh ben non.
Parce qu'en faisant plus 1, c'était la roue toute seule. Donc, il fallait faire par tâtonnement, essayer.
Alors, donc, il faut baisser le nombre de vélos. Si avec 12 roues, avec 6 vélos, ça ne fonctionne pas, peut-être qu'avec moins de vélos, peut-être avec 5 vélos, ça peut fonctionner, Gérard ?
C'est une bonne méthode de baisser le nombre de vélos. Parce qu'avec 5 vélos, on va obtenir 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, 10 roues. Et pour arriver à 13, on ajoute plus 3 roues. Et 3 roues, ça va, parce que c'est un tricycle.
Eh ben voilà.
Donc vous aviez dit 5 vélos, plus le tricycle. Donc la bonne réponse, ça fonctionne. La bonne réponse, c'est il y a 5 vélos et un tricycle. Ça, c'est une bonne solution. Mais si vous cherchez plus longtemps, vous verrez qu'il y a... on peut trouver autre chose.
Vous voulez dire qu'on pourrait, par exemple, trouver plus de tricycles ?
Voilà, ben, si vous cherchez, on ne va pas peut-être le dire maintenant, vous pouvez dessiner plus de tricycles et arriver à 13 roues, il y a
alors,
une autre solution.
Allez, on lance l'appel pour les enfants. Là, maintenant, c'est à vous de trouver tout seul et vous nous postez la réponse sur notre compte WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Vous avez toujours les 13 roues dans votre caisse et vous essayez d'avoir plus qu'un tricycle, hein, plus d'un tricycle. Puisque là, la solution qu'on avait trouvée, c'était 5 vélos et un tricycle. Maintenant, on vous demande une autre solution. Toujours tricycle et vélo. Hein. On passe à un quatrième problème, Gérard, pour des plus grands.
Ah bah oui, là, les plus grands devaient se dire « Ah mais c'est facile, hein, 4 roues, ça fait 2 vélos, c'est trop facile. Bah, » Les plus grands, qu'ils essayent de faire un peu le suivant maintenant. Alors, écoutez bien. Dans ma caisse, il y a des objets roulants, des vélos, des tricycles et des voitures à une roue de secours.
Oula, je vous vois venir.
De secours. Alors, vous devez trouver...
Alors, attendez, vélo, deux roues, tricycle, trois roues et voiture avec roue de secours. Bah déjà, là, il faut compter sur ses doigts pour les plus jeunes et sinon de tête. Une roue, une voiture, c'est quatre roues, plus la roue de secours, c'est cinq roues donc. Hein.
Ah ben, oui, et c'était là le piège. Il y avait, parce que mes élèves, ils étaient habitués à avoir des pièges, ils se méfiaient toujours, et je vois que vous êtes méfiante, et vous avez compté les roues. Effectivement, les voitures comptent pour 5 roues. Alors, on demande de trouver combien de voitures, de vélos et de tricycles il y a dans ma caisse, sachant que j'ai un véhicule de chaque sorte.
Ah.
Alors, je compte les roues. Il y en a 17.
17 roues. Et il faut trouver...
Bah,
ouais, 17 roues, il faut trouver au moins une voiture, au moins un vélo, au moins un tricycle. Hein, c'est ça, si j'ai bien compris.
Ah oui, c'était mis dans l'énoncé. Il y a au moins une voiture, au moins un tricycle, au moins un vélo. Alors, lancez-vous dans les schémas, les dessins, avec les roues, les vélos, les tricycles, les voitures. Et il faut arriver à un total de 17 roues.
Voitures, déjà, ça va vite, hein, parce qu'une voiture, c'est 5 roues, hein, c'est ce qu'on a calculé il y a quelques secondes.
Ah ben oui.
Donc, je ne sais pas, moi, si on décide de mettre 2 voitures, déjà, boum, on est à 10 roues, on est d'accord. 5 plus 5, hein, ça fait 10.
Ça fait 10, il manque plus que 7 roues.
Il manque 7 roues, qu'est-ce qu'on fait avec les 7 roues ?
Alors, là, vous n'êtes pas loin d'une solution. Pour avoir les 7 roues, il faut prendre un tricycle et 2 vélos. Le tricycle, c'est 3 roues. Les 2 vélos, ça fait 4 roues. 3 plus 4 égale 7.
Et
avec les 10 roues des voitures, ça fait 17.
10 plus 4 plus 3. égale 17. Et on a bien les 17 voilà. roues. Et on a bien un de chaque. Hein. Au moins voilà. un de chaque.
On a trouvé une solution, mais il y en a une autre.
Il y en a une autre.
Alors, je ne sais pas si on va la dire ou laisser chercher. On peut la dire, mais on peut aussi vous laisser chercher. Mais ça fait peut-être... Il y a une autre solution avec une seule voiture. Voilà.
Alors, vous allez la chercher et peut-être nous l'envoyer sur WhatsApp. Donc, on a bien 17 roues et il faut trouver au moins une voiture. Souvenez-vous qu'elle a une roue de secours, la voiture, hein, pas seulement 4 roues. Au moins un vélo, au moins un tricycle. Ça peut être plus.
Voilà.
Hein. Donc, vous éliminez toutes les solutions qui comporteraient... vélo, voiture et pas de tricycle, tricycle, vélo et pas de voiture, etc. Et vous postez ça sur notre WhatsApp, la deuxième solution. Il n'y a que deux solutions à ce problème, hein, si on veut un véhicule de chaque catégorie. Donc on a donné la première solution, c'est à vous de trouver la deuxième solution. Combien de voitures, tricycles et vélos avec 17 roues on passe à une deuxième série de problèmes, Gérard. On revient au sens un peu des quatre opérations, parce qu'il y a tout un cheminement pédagogique avec vous, hein, pour les enfants.
Voilà, dans la première partie, on a fait des problèmes avec des décompositions en addition de plus en plus compliquées. Mmh. Maintenant, ça va être des problèmes où on va vérifier que vous avez bien le sens des opérations. Est-ce qu'il faut faire une addition, une soustraction, une multiplication, une division ? Et c'est toujours des problèmes avec des vélos. Alors, le premier problème, c'est pour après le CP, hein, 7-8 ans. Mm-hmm. Alors, je lis l'énoncé. À la rentrée, le club de vélo doit regonfler toutes les roues de ses vélos. Le club a 16 vélos. Calcule le nombre de roues qu'il faut regonfler. Alors, je répète, à la rentrée, le club de vélo doit regonfler toutes les roues de ses vélos. Le club a 16 vélos, calcule le nombre de roues qu'il faut regonfler.
Alors toujours la question à se poser, de quoi parle le problème, hein? Qu'est-ce qu'on nous demande de trouver?
Ben, oui, ce problème, il nous parle d'un club... qui possède des vélos et on doit regonfler toutes les roues des vélos et il faut savoir combien il y a de roues à regonfler. C'est ce qu'on nous demande. Donc on répondra, il faut regonfler, on dira le nombre de roues. Donc quand je donnais le problème là à mes élèves, moi j'aimais bien passer et je regardais comment faisait chacun et il y avait plein de façons différentes. Il y en a qui se lançaient, par exemple, dans une méthode, ils dessinaient les 16 vélos.
Oui, là, ça prend du
avec
temps.
Avec les roues. Mmh. Ah ben, et après, ils comptaient les roues. Oui. Une, deux, trois, quatre. Ah ben, quand on passait à la correction, ils n'avaient pas fini leur dessin. Alors, peut-être que la méthode, elle est... Et encore, hein, il n'y avait que 16 vélos. Hein. Heureusement que je n'en avais pas mis plus. Et ben, ils auraient pu aller plus vite en faisant des paquets de... des paquets de 10 en comptant, et ça aurait pu aller plus vite. Donc il y a des élèves qui faisaient en dessinant le vélo.
Oui.
Mais il y en a d'autres que je voyais avec une autre méthode. Alors eux, ils se disaient, il y a 16 roues à l'avant des vélos et 16 roues à l'arrière en tout. Donc ils prenaient les 16 roues à l'avant des vélos plus les 16 roues à l'arrière des vélos.
Donc une addition, 16 plus 16.
Ils posaient l'opération. Ceux qui calculaient dans leur tête, ils arrivaient à le faire en calcul mental, mais ils pouvaient la poser. Et ils trouvaient 32. 16 plus 16 égale 32.
Et c'est la bonne réponse.
Il faut regonfler 32 roues. C'était une bonne méthode.
Oui.
Et il y en a d'autres qui faisaient carrément une multiplication. Ils disaient... il y a deux fois, enfin, ou on peut dire aussi, il y a 16 fois deux roues. Chaque vélo a deux roues. Il y a 16 fois deux roues.
Mmh.
Donc, 16 multiplié par 2. Ils posaient la multiplication ou ils calculaient dans leur tête. j'ai trouvé égal 32.
Ça veut dire que donc là, pour ce problème, il faut soit faire une addition, soit faire une multiplication. Ce sont les deux bonnes opérations à effectuer.
Ceux qui faisaient le schéma, ils comprenaient, mais ils allaient trop lentement. Et s'il y a beaucoup de problèmes, ils n'en font pas beaucoup.
Et oui, c'est donc, bien pour ça qu'on a inventé les mathématiques. Ouais.
C'est pour ça qu'il faut qu'ils basculent du schéma. Mais en faisant leur schéma, ils voient que les autres font une addition et une multiplication. Et un jour ou l'autre, ils finissent par basculer vers la bonne méthode.
Ouais, je vois que vous n'êtes jamais découragé sur le niveau en maths de vos élèves, Gérard Sans Faute. C'est ça qui est formidable.
Mais c'est ça, quand on enseigne, on observe ce que font les élèves et on réagit à ce qu'ils font. Et ils doivent passer à l'étape juste supérieure. Il ne faut pas... monter 5 barreaux d'un coup.
C'est ben oui, bien sûr, exactement, voilà. Exactement. Et puis là, ce sont vraiment des étapes importantes pour bien comprendre à quoi servent les opérations. On passe à un autre problème pour des enfants un tout petit peu plus âgés, les 9-10 ans.
Pour 9-10 ans, un problème qui est peut-être un petit peu plus compliqué encore. Et là, on va aller peut-être directement vers une méthode plus experte, hein, sans détailler. Mais il y a d'autres méthodes, mais on va parler plus de la méthode experte. Alors, je lis l'énoncé. J'ai 6 fois plus d'argent que mon frère qui possède 25 euros. Moi et mon frère, pouvons-nous, en rassemblant notre argent, acheter un vélo à 180 euros.
Alors, je vais le relire. J'ai 6 fois plus d'argent que mon frère qui possède 25 euros. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que moi et mon frère, on peut, en rassemblant tout notre argent, acheter un vélo à 180 euros ? Donc là, on va devoir compter la totalité de l'argent qu'on a à deux, hein, que les deux frères ont. Pour voilà. Savoir si on a assez, il faut 180 euros pour acheter le vélo.
Voilà. Et là, mes élèves, y en a toujours qui tombaient dans le piège. Ils faisaient 6 fois 25, parce qu'ils voyaient 6 fois plus d'argent. Ils faisaient 6 fois 25 pour trouver combien il y avait d'argent. Mmh. Mais ces élèves, ils oubliaient quelque chose d'important, c'est que mon frère... Il possède 25 euros.
Voilà. Alors, il faut bien lire toute la phrase. J'ai 6 fois plus d'argent que mon frère qui possède 25 euros. Donc, on peut faire d'un côté 25 euros hein, pour le frère.
Voilà.
Et l'autre, il a 6 fois plus que 25.
6 fois 25.
Voilà.
Donc, au total, on a 7 fois le 25. Moi, j'ai 6 fois 25 euros. Mon frère, une fois 25 euros. Et donc, il y a 7 fois 25 euros. Mmh. Et pour trouver combien nous avons d'argent, il faut faire 7 fois 25 euros. Et pas 6 fois.
Alors, on peut faire 6 fois 25 plus 25 pour le frère et additionner le frère. Mais c'est moins expert, c'est ça comme méthode. Hein.
Voilà, mais c'est juste aussi. On peut d'abord chercher combien je possède d'argent. 6 fois 25 et ajouter 25. Mais j'avais des élèves qui s'arrêtaient à 6 fois 25 et qui n'allaient pas plus loin.
Alors, Gérard Sans Faute, on va poser un dernier problème. Non, je ne vais pas le poser, mais on va le poster plutôt sur les réseaux sociaux. C'est une histoire de Vincent qui a acheté un VTT, un casque. Et il y a aussi des calculs à faire, mais on n'a plus le temps aujourd'hui, Gérard Sans Faute. Mais en tout cas, maintenant, vous pouvez enfourcher votre bicyclette et puis pédaler en toute liberté, ceux qui ont un vélo, dont vous, Gérard Sans Faute. Merci beaucoup pour tous ces problèmes mathématiques.
Voilà, c'est bien. Ah, on ne va pas lire le dernier problème. Il va juste
non, on va le poster, non, parce qu'il faudrait prendre un petit peu de temps et puis il faut aussi qu'on garde du temps pour l'histoire du jour. Hein. Ne manquez pas d'ailleurs dans quelques instants l'histoire du jour. Ce sera une drôle d'histoire de langue dans la bouche qui dit un peu les mots qu'elle veut bien dire. Merci à vous Gérard, on se retrouve très bientôt. Et quant à vous les enfants, surtout ne zappez pas. Samba the Great plutôt. Et juste après, l'histoire du jour. Au revoir Gérard. When you don't got fish, how you gonna live it with
girl, you don't got bad. Hot damn, once it was a while ago. Music is a business, now I'm singing in the fire cold. Singing by my feet, know why they plan it, how it's viable. Well, I got feeling, how I'm feeling is maniacal. My voice, my skin, my logo. How you trying to package me when you don't got a photo? In the end, no ID, no polo. Shot into the heavens, cause I don't know where to go, though. Somebody tell the dealer I'm coming, I'm coming. My oh my, nah, I'm stunning. My oh my, nah, I'm running in the end, so here I go. We used to think the industry was five stars, and now we itching just to find stars, but they were scheming when they find us, and now we talking, now we open, so don't remind us. From the beginning, we never win it, then when I end is we despair. You want my art, what's up, I'm under charge, and overthought. Now I'm living, trying to give in every melody of ours. What's hot, what's not, what's ours? Sally selling six figures, where we meant to. Nah, I'm trying to make a living. Music is a source of all my end and my beginning singing.
C'est le titre de la chanson Sampa the Great. C'est chez 7 milliards de voisins. L'école à la radio, vous êtes bien sur RFI. Et tout de suite, une histoire racontée par Héloïse Auréa, La langue, écrite par Jean-Jacques Vdida.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois.
La langue, un conte de Jean-Jacques Vdida, édition Didier Jeunesse. Ce que la bouche a gagné, c'est la langue qui le lui a donné. Un roi d'entre les rois était tombé gravement malade. Ses médecins, sages et conseillers, l'avaient avisé que l'unique moyen pour lui de recouvrer la santé était de boire du lait de lionne. Aussitôt, le roi a fait venir devant lui le plus vaillant de ses guerriers pour lui confier la mission ô combien délicate d'aller traire une mère fauve et lui rapporter une fiole de son lait. Le guerrier s'est mis en route sans sourciller. Il était chasseur expérimenté et a jugé que la façon la plus sûre d'approcher une lionne d'assez près pour la traire était de devenir le proche ami de ses petits. C'est ce qu'il a fait. Il a repéré une femelle aux mamelles lourdes de lait et toutes les nuits, après avoir attendu patiemment qu'elle parte à la chasse, il allait se mêler à ses lionceaux pour se livrer avec eux à toutes sortes de jeux et chamailleries. Et si bien qu'un matin, l'homme s'était à ce point immiscé entre les petits fauves enjoués, il avait le corps tellement couvert de leurs baves et mordillements que la lionne en rentrant ne s'est pas même effarouchée de sa présence et l'a laissé s'allonger près de ses flancs pour prendre part à la tétée matinale. Ainsi, le guerrier a empli une pleine fiole de lait de lionne. Sur le chemin du retour, cependant, alors qu'il reposait sur une couche d'herbe sèche, l'homme a fait un rêve étrange. Il a rêvé que chacun de ses membres revendiquait la gloire de l'expédition. Ses mains prétendaient que sans elles, il n'aurait pu traire la lionne. Ses jambes soutenaient que sans elles, il n'aurait atteint sa tanière. Son cœur alléguait que sans lui, il n'aurait trouvé le courage d'en approcher. La tête objectait que sans elle, il n'aurait pas conçu un tel plan. Et tandis que yeux, nez et oreilles commençaient eux aussi à prendre part au débat, arguant que sans eux, l'homme n'aurait su voir, entendre ou sentir ce qu'il fallait, la langue a brusquement pris la parole pour affirmer que sans elle, tous n'étaient rien et moins que rien. Unanimement, tous les membres du corps ont éclaté de rire, raillant la prétention de la langue qui n'avait absolument rien fait et n'était bonne en général qu'à se vanter, boire et manger. Ces soubresauts de rire, secouant son corps entier, ont eu pour effet immédiat de tirer le guerrier de son sommeil. Intrigué par son rêve, mais ne voulant prendre le temps d'y songer davantage, il s'est dépêché de poursuivre sa route pour se présenter devant le roi. Là, il s'est prosterné, puis, levant haut la fiole, a dit devant toute la cour assemblée « Reçois, ô grand roi, ce lait de chien !» Le roi a sursauté. « Comment ? Que dis-tu ? Que m'as-tu apporté ?» Le guerrier, terrifié par les paroles qu'il venait de prononcer, a aussitôt essayé de se corriger. « Pardonne-moi, ô roi, ma langue a fourché. Je voulais dire que je t'ai bien rapporté du lait de chien. De chien. Non, de chien. Oh, non, de chien. » Hélas, à son grand désarroi, le guerrier s'est aperçu que chaque fois qu'il essayait de dire « lionne », sa langue lui jouait un tour et il disait « chien ». Le roi scandalisé s'est mis à hurler « Te moques-tu de moi ?»« Mais non, ô roi, j'essaie simplement de te dire que je t'ai ramené du lait de chien. Je veux dire « de chien ». Pardonne-moi, mais essaye de comprendre que ce que je t'apporte et que tu désires et que tu mérites, c'est évidemment ce lait de chien, 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 chien. Oh ! Le roi, irrémédiablement insulté et encore plus malade à cause de cela, a fait enfermer le guerrier sur le champ afin qu'on lui tranche la tête le lendemain à l'aube en présence de tout le village. Dans la case des condamnés, le guerrier tâchait de se raisonner, de se reprendre, de bien articuler. Rien à faire, les mots lui échappaient. Sans plus de force, il a fini par s'assoupir, marmonnant toujours « chien, chien ». À peine endormi, le rêve de la veille l'a repris. Seulement cette fois, c'est sa langue qui riait aux éclats devant les autres parties du corps, qui la suppliait de revenir à elle, lui expliquant que par sa faute, tous allaient être perdus. Chacun était prêt du reste à reconnaître sa prééminence, pourvu qu'elle arrête de divaguer. Quand on est venu réveiller le guerrier pour le mener sur la place du village, lui-même suppliait en secret sa langue de le sauver. Effectivement, à son grand soulagement, au moment même où le bourreau soulevait son sabre pour le décapiter, sa langue lui a donné l'éloquence pour expliquer son trouble passager. L'homme a pu expliquer les détails de sa mésaventure et le roi, émerveillé de ce qu'il entendait, a non seulement consenti à goûter au fameux lait de lionne, ce dont il s'est senti aussitôt soulagé, mais il a également prié ses griots, conteurs et chanteurs, de retenir et de transmettre avec exactitude cette histoire étonnante. Car elle établit mieux qu'aucune autre que la langue prédomine au destin de l'homme. Elle est celle qui, en toute extrémité, peut sauver sa tête ou faire d'un lion un chien. Oui, la langue est instrument de perte ou de sauvegarde. Que la vôtre vous fasse grand bien et que le ciel vous la garde.
À la mise en onde, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Orea, le conte de Jean-Jacques Dida a de quoi nous faire réfléchir quant aux mots qui sortent de nos claviers sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y en a un qui n'a pas sa langue dans sa poche pour donner des conseils très concrets aux entrepreneurs en Afrique. J'ai nommé le coach. Il arrive sur scène tout de suite.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bonjour. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel, quelle entrée triomphale.
Il n'y a pas les applaudissements, mais on les pense très fort. Vous suivez la lente remontée à la surface des entrepreneurs après la crise. Et c'est le moment d'avoir des idées claires, notamment pour bien redéfinir son marché et ses clients après la crise. Alors, si on considère que le marché sont les personnes qui consomment ou sont susceptibles de consommer un produit ou un service, encore faut-il bien l'analyser, ce marché.
Effectivement, la pandémie de ce fameux coronavirus a quand même impacté énormément de secteurs. Et on estime que plus de 30% des entreprises ne pourraient jamais se relever de la crise dans certains secteurs, voire plus. Donc le marché est un peu déstructuré, si vous voulez, à la suite de cette pandémie. Et il me semble important de rappeler un peu quelques idées qui permettraient aux entrepreneurs de retrouver leur place, ou peut-être de trouver une nouvelle place sur le marché. Et donc peut-être c'est là où il faut peut-être réanalyser l'offre, c'est-à-dire les concurrents et la demande sur le marché sur lequel on opérait peut-être tranquillement jusqu'à présent.
Lorsque vous nous parlez d'offres et de demandes, comment est-ce que l'entrepreneur peut analyser ces deux éléments après la crise pour se développer plus facilement, en particulier la demande, alors qu'on a beaucoup dit, les économistes ont beaucoup dit dans le monde, là, et effectivement, en particulier sur les continents les plus pauvres, là, la demande est en train de se tasser terriblement. Donc, qu'est-ce qu'on va vendre et à qui ?
Effectivement, la demande se tasse, mais rapidement, avant d'arriver à la demande, l'offre, il faut vraiment faire attention, parce que généralement, on fait attention à l'offre des produits identiques, c'est-à-dire des produits qui satisfont le même besoin. Bon, un stylo reste un stylo, mais on oublie souvent ce qu'on appelle les produits de substitution, c'est-à-dire des produits qui ont des caractéristiques qui se rapprochent un peu des produits existants sur le marché, qui répondent plus ou moins au même besoin, mais qui sont une menace pour vous. L'exemple simple qu'on donne souvent, c'est celui des smartphones, où avec les fonctions photo, vidéo, on a vu que les fabricants d'appareils photo et de caméras sont vraiment en difficulté et essaient de se réinventer, parce que pour le grand public, aujourd'hui, un smartphone fait parfaitement l'affaire pour faire une photo, une vidéo. Maintenant, pour revenir à la demande, je crois qu'il est vraiment important pour nos auditeurs et nos entrepreneurs de bien distinguer, entre guillemets, sur leur marché, ce qu'on appelle les groupes de clients possibles. Alors, il y a rapidement peut-être quatre catégories. Hein. On ne va peut-être pas avoir le temps détaillé. Il y a les clients actuels de l'entreprise. Bon, ce sont ces clients habituels avec lesquels ils travaillaient, qui ont peut-être changé et qu'il faut y réanalyser. Il y a les consommateurs, les clients de sa concurrence directe et indirecte. Et ces consommateurs, ces clients potentiels, comment il peut peut-être leur proposer aussi son produit? Il y a ce qu'on appelle les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire des acheteurs potentiels qui ne consomment pas actuellement le produit, mais qui pourraient le consommer et qu'on a peut-être oublié jusqu'à présent. Et puis, il y a ce qu'on appelle les non-consommateurs absolus, c'est-à-dire des clients qui ne connaissent pas du tout votre produit, qui ne connaissent pas votre entreprise, ou du moins pour des raisons éthiques, religieuses, économiques, ne regardaient même pas vos produits, mais qu'il faut peut-être regarder aujourd'hui avec une dimension locale, si vous intervenez localement, à l'échelle d'un quartier peut-être, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région, peut-être à l'échelle nationale, à l'échelle régionale. Donc, c'est autant de choses qu'il faut absolument mettre dans la matrice d'analyse de votre clientèle pour arriver à mieux la situer après la crise, pour adresser le produit qui pourrait lui convenir le mieux.
Donc ça veut dire finalement que les entrepreneurs là, dans cette période post-crise, doivent se challenger, ne pas se contenter de reconquérir les clients habituels, mais d'aller chercher avec les dents ceux de la concurrence et puis les non-consommateurs.
Absolument, vous voyez, bon, je prends une industrie qui est par exemple la nôtre, où on estime qu'il y aura plus de 30 millions d'emplois qui sont perdus en Afrique, dans le reste du monde, c'est des centaines de millions d'emplois. Donc, un cabinet de recrutement aujourd'hui, finalement, ne recrute pas tant que ça. Donc, il va devoir proposer d'autres produits à ses clients, peut-être des produits de d'évaluation, des produits de redéploiement d'effectifs, des produits d'évaluation. Donc, vous voyez, donc, ou le restaurateur, par exemple, qui ne retrouve pas son client d'avant, on en avait parlé un petit peu, va peut-être s'adresser à un client qui peut-être a besoin d'un produit différent chez lui, peut-être lui livrer des produits chez lui. Et j'ai vu ça ce week-end, j'ai visité une agence de voyage qui a ouvert une boutique et qui fait de la livraison à domicile de produits que certains clients réclament dans une zone donnée. Donc, elle s'adresse à une clientèle qui n'était pas habituelle avec une offre de service qui est différente, ou un restaurateur, par exemple, qui, depuis quelques semaines, ne fait que des événements à domicile avec une clientèle plus réduite, avec une offre de service plus adaptée, plus sur mesure, on va dire. Donc, ouais, c'est autant de choses. Et donc, quand on se pose des questions par rapport à sa clientèle, il y a un certain nombre de questions. Est-ce que l'utilisateur d'avant de mon produit utiliserait toujours aujourd'hui mon produit? Est-ce qu'il en aurait toujours autant besoin? Ce n'est pas sûr. Ensuite, celui qui payait le produit avant, est-ce que c'est toujours lui qui va le payer? Je donne un exemple très simple qui va, à mon avis, interpeller tous les parents. Nos enfants, par exemple, qui achètent des jeux vidéo sur Internet auxquels ils ont joué pendant le confinement, évidemment, est-ce que c'est eux qui payent? Ce n'est pas eux qui payent. Ce sont les parents qui payent. Donc, si on n'analyse pas le pouvoir d'achat des parents, on ne parle pas aux parents, disons, très bien, vous avez acheté des jeux vidéo pendant le confinement, maintenant, c'est peut-être des jeux vidéo plutôt éducatifs qu'on va vous demander d'acheter. Donc, je change mon offre-produit et je parle aux parents qui vont payer le produit pour le gamin qui, pendant 3 mois, a profité de notre portefeuille et n'a acheté que des vidéos ludiques. Ouais, ensuite, le montant de l'achat. Donc, vous voyez, c'est autant de choses... Que l'entrepreneur, que le patron d'entreprise, autant de questions qu'il doit se poser pour réadapter son offre au marché et mieux situer sa clientèle sur les différents segments.
Affiner sa clientèle. Alors, on parle beaucoup aussi, avant la crise, de l'expérience client. On dit que maintenant, il faut réinventer l'expérience client. Moi, je dois dire que c'est une expression très marketing. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, quand même, l'expérience client.
Alors, effectivement, en fait, l'expérience client, ça veut dire simplement mieux comprendre ce dont le client a besoin et voir comment le client achète. C'est ça l'expérience client en résumé. On peut faire toute une littérature autour de ça. Mais c'est surtout parce que le consommateur, aujourd'hui, est très connecté. Et il interagit avec les marques plus souvent et dans beaucoup plus d'endroits qu'avant. On estime qu'on mène un client entre en contact au moins 5 fois avec une marque avant de l'acheter. Que ce soit sur Internet quand il va faire ses recherches sur Google ou quand il se rend dans une boutique ou quand il télécharge une application. Donc, vous voyez bien que tout ce qui est web, mobile, présentiel, change énormément la manière dont le client agit. Et donc, quand on dit l'expérience client, c'est l'expérience marketing qui doit former un tout à travers ses instruments, en intégrant la mobilité du client, en intégrant tous ces terminaux pour aller vers le client et lui dire, tiens, voilà le cheminement que je propose pour arriver vers mon produit. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le marketing 2.0, mais je pense qu'on pourrait...
On en a déjà parlé dans une précédente chronique et vous y reviendrez sûrement. Merci beaucoup, Didier Akwété. Alors, bien sûr, les entrepreneurs qui nous écoutent peuvent aussi vous poser des questions spécifiques pour relancer leur entreprise, toujours sur le compte WhatsApp de l'émission, 33 1 84 22 71 71. Et puis, toutes vos chroniques, Didier Akwété, sont à retrouver sur le site rfi.fr. Le titre, très simple à retenir, Entreprendre en Afrique, les conseils de Didier Akwété. Demain, suite de l'école à la radio, encore des mathématiques, la règle de 3 et les proportionnalités pour les pourcentages. Ça peut servir d'ailleurs dans le business. Vous êtes toujours en ligne avec nous, Didier Akwété ?
Je suis toujours là.
Ouais, ça vous parle, les pourcentages.
Eh oui, on en fait beaucoup actuellement.
Merci à vous, à très vite, à jeudi. Et quant à vous, les voisins, les voisines, les juniors et les plus grands, on se retrouve demain, suite de l'école à la radio.